à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du vendredi 11 janvier 2019. Abdourahmane Diaye et Morgane Guerrier à la présentation. Voici les titres.
République démocratique du Congo, le camp du candidat Martin Fayoulou annonce un recours devant la Cour constitutionnelle et donne ses propres résultats.
J'ai dit j'utiliserai tous les moyens qui sont à ma possession pour recouvrer la victoire du peuple.
En Guinée, les enseignants ont mis fin à leur grève qui durait depuis octobre.
Au Soudan, les manifestations contre le gouvernement ont continué, tout comme les tirs de gaz lacrymogène pour les disperser.
Le président américain Donald Trump a défendu son projet de mur alors que l'administration fédérale reste paralysée.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Après la présidentielle, les résultats des législatives nationales sont très attendus en République démocratique du Congo. À la Commission électorale nationale indépendante, les plénières de délibération entamées depuis jeudi se poursuivent. L'annonce des noms des 500 nouveaux députés pourrait intervenir tard dans la soirée, comme nous le confirme Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Cette étape est décisive car elle définira la prochaine majorité parlementaire d'où sortira le Premier ministre qui devra être nommé par le nouveau président de la République. Le Front commun pour le Congo, la coalition Lamuka, Cap pour le changement du président Félix Tshisekedi comme d'autres regroupements politiques espèrent, chacun en ce qui le concerne, obtenir cette majorité parlementaire. Entre-temps, le candidat malheureux Martin Fayoulou, comme de nombreux pays et organisations, demande au président de la CENI, Corneille Nangaa, de publier tous les procès-verbaux sur lesquels il s'est appuyé pour proclamer Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Le candidat de la coalition Lamuka, qui a publié ses propres résultats qui lui donnent vainqueur de la présidentielle, promet par ailleurs de saisir ce samedi la Cour constitutionnelle pour introduire son recours. Notez par ailleurs que le Front commun pour le Congo a, dans une déclaration faite vendredi à Kinshasa, pris acte des résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante et promis lui aussi de recourir à la Cour constitutionnelle. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Par ailleurs, la Conférence nationale épiscopale du Congo, CENCO, souhaite que le Conseil de sécurité demande à la CENI la publication des procès-verbaux du scrutin présidentiel pour enlever les doutes et apaiser les esprits. Les résultats tels que publiés ne correspondent pas aux données collectées par la mission d'observation de la CENCO, a souligné Mgr Marcel Outembi lors d'une liaison vidéo avec le Conseil de sécurité de l'ONU réuni à New York pour discuter de la RDC.
Au Cameroun, 10 séparatistes anglophones jugés à Yaoundé pour terrorisme et sécession ont récusé leur nationalité camerounaise. Ils exigent leur renvoi au Nigeria, où ils avaient été arrêtés début 2018. Leur procès devant un tribunal militaire de Yaoundé a été suspendu et renvoyé au 7 février. Le leader des séparatistes, Julius Ayuk Tabe, fait partie des personnes jugées.
L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédier n'exclut pas de se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Il n'écarte pas aussi la possibilité de s'allier à Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, ou avec le FPI de Laurent Gbagbo. Monsieur Bédier, qui sera âgé de 86 ans en 2020, a déjà dirigé la Côte d'Ivoire de 93 à 99 avant d'être renversé par un coup d'État suivi d'une longue crise politique.
En Guinée, les élèves vont enfin reprendre le chemin de l'école après plusieurs semaines de grève à l'appel des enseignants du pré-universitaire. Le syndicat des enseignants et le gouvernement ont signé jeudi à Conakry un protocole d'accord et ont fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
C'est la fin d'une crise qui a duré 3 mois. Le gouvernement guinéen et le syndicat des enseignants sont enfin parvenus à s'entendre sur 12 points. Le protocole d'accord a été signé jeudi soir après avoir été plusieurs fois reporté. Les enseignants n'obtiennent pas les 8 millions de salaire de base comme ils le réclamaient depuis le début de la grève. Le gouvernement leur promet une augmentation, mais ils devront attendre la fin de l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants, une opération confiée à une commission mixte. Les grévistes s'en sortent avec le rétablissement des enseignants mutés ou démis de leurs fonctions pour fin de grève et le dégel exceptionnel des salaires des enseignants pendant la période de grève. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée s'engage à organiser des cours de rattrapage à tous les niveaux pour combler le retard accusé dans le calendrier scolaire. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Soudan, les forces anti-émeutes ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants anti-gouvernementaux à Khartoum et à Omdurman après la prière du vendredi. Nathalie Barge.
Liberté, paix, justice, scandaient les protestataires dans deux secteurs de Khartoum et à Omdurman, sur la rive ouest du Nil, quand la police est intervenue pour tenter de les disperser. Les organisateurs des manifestations qui secouent le Soudan depuis le 19 décembre avaient appelé à de nouveaux rassemblements ce vendredi et la semaine prochaine. Nous allons lancer une semaine de soulèvement avec des manifestations dans toutes les villes et villages, a annoncé l'association des professionnels soudanais, qui regroupe notamment des médecins, des professeurs et des ingénieurs. Dans son appel diffusé sur les réseaux sociaux, l'association a appelé à un grand rassemblement dimanche dans le nord de Khartoum et à plusieurs manifestations à travers la capitale durant toute la semaine.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande au gouvernement libyen de prendre des mesures pour protéger les détenus en Libye contre la torture. Il demande aussi à Tripoli d'accorder à ses prisonniers une procédure judiciaire régulière. Toutes les prisons doivent être sous le contrôle effectif du gouvernement et ne dépendre d'aucune influence ou interférence venant de groupes armés, précise le secrétaire général. Environ 5300 réfugiés et migrants sont détenus en Libye depuis le mois d'août.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a défendu hier à McAllen, ville texane frontalière avec le Mexique, son projet de mur, source d'un vif débat avec les démocrates qui a provoqué la paralysie partielle de l'administration fédérale. Ekabadou.
En cette troisième semaine de shutdown, le locataire de la Maison-Blanche réclame 5,7 milliards de dollars pour le mur à la frontière sud. Ses adversaires refusent catégoriquement de débloquer les fonds pour ce projet qu'ils jugent immoral, coûteux et inefficace. Par contre, pour M. Trump, c'est du bon sens et il faut un mur. Sans cela, il n'y aura que des problèmes et la mort, beaucoup de morts. Lors d'une table ronde, il a également évoqué le fait que les migrants illégaux profitent selon lui des zones où il est impossible de déterminer si vous êtes au Mexique ou aux États-Unis. L'impasse des discussions budgétaires se poursuit. Depuis plus de deux semaines, quelques 800 000 fonctionnaires fédéraux travaillent sans être payés ou bien sont mis en congé. Une paralysie prolongée du gouvernement fédéral aurait un effet notable, a mis en garde le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell. Le shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis pourrait avoir lieu si aucun compromis n'est trouvé d'ici demain samedi.
Les États-Unis ont commencé à retirer du matériel de Syrie, mais pas encore de troupes. C'est ce qu'a indiqué un responsable du ministère de la Défense. « Nous ne retirerons pas de troupes à ce stade », a indiqué ce responsable qui a requis l'anonymat. Auparavant, la coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis avait annoncé avoir commencé le processus de retrait organisé de Syrie.
Et concernant la Syrie toujours, environ 25 000 personnes ont fui des combats dans l'est du pays où des djihadistes défendent leur dernier bastion. C'est ce qu'indique le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés qui se dit préoccupé par les informations faisant état d'un nombre croissant de victimes civiles et de déplacements massifs de population dans l'enclave de Hajin, dernière poche du groupe État islamique dans la province orientale de Deir ez-Zor.
Mike Pompeo poursuit sa tournée dans le Moyen-Orient. Il était à Bahreïn aujourd'hui. Les États-Unis vont organiser le mois prochain en Pologne une réunion ministérielle pour promouvoir la stabilité au Moyen-Orient. C'est ce qu'a fait savoir le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Cette réunion sera centrée sur la stabilité, la paix, la liberté et la sécurité au Moyen-Orient. Et cela inclut un élément important qui est de s'assurer que l'Iran n'ait pas d'influence déstabilisatrice, a expliqué le secrétaire d'État.
Au Proche-Orient, une Palestinienne a été tuée par des tirs israéliens lors de manifestations et de heurts le long de la frontière dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza ajoute que 14 citoyens ont été blessés par des tirs israéliens.
Et puis la France qui appelle l'Iran à renoncer à des tirs de fusées prévus dans le cadre d'un programme spatial iranien, estimant qu'il violait une résolution des Nations Unies. Le ministère français des Affaires étrangères a demandé à Téhéran de cesser toute activité liée aux missiles balistiques.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
On passe à l'actualité économique sur le continent. C'est la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
Le groupe français Bolloré va perdre fin 2019 la concession du terminal à conteneurs du port de Douala au Cameroun, le plus grand port d'Afrique centrale. La direction générale de ce port a déjà publié la liste de 5 entreprises présélectionnées pour reprendre la concession de son terminal à conteneurs. La Douala International Terminal, filiale du groupe Bolloré, qui exploite le terminal à conteneurs depuis 15 ans, n'y figure pas. Au Nigeria, la société Theology Holding quitte le Nine Mobile quelques semaines à peine après sa prise de contrôle de 301 millions de dollars par un groupe d'investisseurs locaux. Son départ intervient après des désaccords avec les actionnaires nigérians. Theology détenait une participation minoritaire dans Nine Mobile, quatrième opérateur télécom du pays, avec 16 millions d'abonnés actifs. Terminons avec l'Arabica qui a grimpé cette semaine, tandis que le Robusta a reculé et que le cacao est resté stable. L'Arabica a atteint son plus haut niveau en un mois avec 106,85 cents la livre mercredi à New York. Le sucre a bondi en début de semaine et a continué de monter dans une moindre mesure. Mercredi, la livre de cette denrée brute coûtait 13,05 cents à New York. Le sucre a ainsi atteint son plus haut niveau depuis un mois avant de grimper jeudi à Londres à 359,90 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis un mois et demi.
L'info sur les stades, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le président de la FIFA est en visite hier à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Oui, Gianni Infantino était accompagné de la secrétaire générale de la FIFA et du président de la CAF, la Confédération africaine de football. Notre correspondant à Ouagadougou, Salif Kabore, a suivi ce bref séjour du patron du football mondial dans la capitale burkinabé.
Le président de la FIFA a inauguré les installations de l'éclairage solaire de l'étoile filante de Ouagadougou, un projet africain qui nous tient à cœur. Gianni Infantino.
C'est une première en Afrique, c'est une première dans le monde. Ce qu'il y a ici, c'est le soleil. Il y a beaucoup de soleil. Donc pourquoi pas profiter de ce soleil, créer avec des panneaux solaires l'énergie nécessaire pour illuminer un terrain de football et permettre à nos jeunes de pouvoir jouer au football le soir.
Le président de la Fédération burkinabé de football a relevé l'importance de ce projet pour le football burkinabé. Sita Sangale.
Avec cette électrification, le club, il faut, pour augmenter ses heures d'entraînement, les gens peuvent s'entraîner le soir également.
Gianni Infantino est également convaincu que le développement du football passe d'abord par la formation.
Il faut amener le football dans les écoles, à travers le ballon, pour aussi aider avec l'éducation. Dans ce sens-là, la FIFA va lancer un projet très bientôt ici même en Afrique.
Ouagadougou, Salif Kabore, VOA Afrique.
En Europe, ce duel au sommet en Première Ligue dimanche.
Oui, Manchester United se déplace à Wembley pour affronter Tottenham, son premier gros test depuis l'arrivée mi-décembre de Ole Gunnar Solskjaer au poste d'entraîneur à l'occasion de la 22e journée de Premier League, également marquée par la poursuite du duel à distance entre Liverpool et City. Les Red Devils qui ont refait en moins d'un mois la moitié de leur retard sur la 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions tenteront de poursuivre leur folle remontée au classement face au 3e de la Premier League qui les avait surclassés lors du match aller fin août 3-0 à Old Trafford.
Et en basketball, Miami stoppe le sursaut de Boston.
Oui, Boston n'arrive pas à limiter les autres cadors de la conférence Est. Les Celtics se sont arrêtés jeudi à 4 victoires de suite en s'inclinant nettement à Miami 115-99. Il n'a fallu qu'une période à Miami pour prendre la mesure de la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA. Boston reste donc au 5e avec 25 victoires et 16 défaites, mais s'éloigne toujours au plus de Milwaukee et de Toronto qui survolent la conférence Est et enchaînent, eux, de longues séries de victoires.
Merci Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerrier et Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe au dossier du jour, Morgane.
Martin Fayoulou, candidat de l'opposition qui vient après Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle proclamée par la CENI en RDC, va saisir samedi la Cour constitutionnelle. Edi Sango l'adjoint. Suivons Martin Fayoulou.
J'ai dit que j'utiliserai tous les moyens à ma possession pour recouvrer la victoire du peuple. Il n'y a pas question d'avoir foi à la Cour. J'ai dit que j'utiliserai tous les moyens qui sont à ma possession pour recouvrer la victoire du peuple. Là, je viens de m'adresser au peuple congolais pour lui dire que nous avons gagné et le centre de compilation de la Mouka a donné les résultats. Et les résultats sont clairs et nets. Nos résultats sont proches de ceux de la CENCO et donc c'est bon.
Et vous le faites samedi, les dépôts?
Tout à fait.
Lors de la plénière de la CENI, la représentante du MLC qui est de la MOUCA a refusé de signer. Qu'est-ce que vous en dites?
Elle est logique avec elle-même parce qu'elle a voulu suivre la procédure, elle a voulu suivre la loi électorale. Je ne comprends pas ce que M. Nanga a fait. Il dit que les résultats viennent des clés USB. Donc c'est le vote électronique, la transmission électronique des résultats. Il dit que tout le monde sait que les centres locaux de compilation n'avaient pas encore terminé la compilation pour la présidentielle et n'avaient pas encore commencé les compilations pour les législatives provinciales. Mais d'où sont sortis ces chiffres-là? Et ça, c'est ce qu'on dit en français, cousu du fil blanc. Donc je crois que la représentante du MLC, elle s'est sentie indépendante. Elle s'est dit qu'elle avait signé, elle avait prêté serment. Par rapport à ce serment, elle ne pouvait pas obtempérer au dictat de M. Nanga.
L'écart dans les résultats publiés par la CENI entre les premiers et les poursuivants, c'est-à-dire vous, est de 600 000 voix. Mais on n'a pas voté à Yumbi, Beni, à Butembo, où l'électorat est de plus de 1 300 000. Qu'est-ce que vous en dites?
Si vous prenez 1 700 000, vous dites 70% des taux de participation. Et vous avez 910 000. Et qu'est-ce que vous faites avec ces citoyens-là qui n'ont pas voté? Et qu'est-ce que vous faites avec vos chiffres qui donnent cet écart de 686 000? Donc je crois que c'est une construction montée de toutes pièces pour se donner des options. Entre autres options, de procéder à l'annulation des élections. Mais nous nous disons qu'on ne peut pas annuler les élections parce que le peuple s'est décidé et nous demandons au comptage manuel, bureau par bureau, devant la CENI, devant l'Union africaine, devant les Nations unies et devant tout le monde, la SADC et toutes les organisations, même la société civile et aussi l'Union européenne, pour que tout le monde entier soit témoin et voir ce que le peuple congolais a réalisé le 30 décembre 2018.
Voilà, c'était l'opposant Martin Fayoulou, joint à Kinshasa.
Justement, Martin Fayoulou, donc, qui est donné perdant de l'élection présidentielle, va saisir la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez entendu. Il revendique une victoire de 61% et exige le recomptage des voix. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles Henri-Désiré Zouzi, il est consultant diplomatique.
C'est une première sur le continent. Le contentieux électoral dans lequel la RDC va s'engager à partir de cette semaine, eh bien, va opposer deux opposants, ce qui est encore beaucoup plus singulier et qui mérite d'être souligné.
Quelles sont les chances pour faire aboutir sa cause?
Il y a trois, quatre figures qui peuvent se présenter. Premièrement, la Cour rejette la demande de Fayoulou et donc valide le résultat provisoire de la CENI. Deuxième cas de figure, la Cour peut effectivement être sensible aux arguments de Fayoulou et demander le recomptage des voix. Et troisième possibilité, la Cour peut tout simplement annuler le scrutin et donc invalider tout le processus. Et à ce moment-là, effectivement, tous les compteurs sont remis à zéro.
On revient à la case départ.
On revient à la case départ avec comme conséquence politique, vraisemblablement, l'ouverture d'une période de transition.
Piloté par qui?
Il y a deux lectures possibles. Si l'on s'en tient à l'article 70, alinéa 2, Kabila devra, malheureusement pour ceux qui le considèrent comme étant un obstacle, eh bien, continuer jusqu'à l'installation effective du président élu. Et l'autre hypothèse, mais cela suppose une très forte pression à la fois interne et externe, c'est l'opportunité d'une transition sans Kabila. Et là, on pourrait se retrouver dans le cas soit du Burkina Faso ou de la Centrafrique avec un président intérimaire qui n'aurait pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle.
Fayoulou semble avoir le soutien notamment de la France et des États-Unis qui contestent les résultats annoncés par la CENI. Comment vous analysez la position des deux pays?
Il y a eu beaucoup de maladresse de la part de ces deux pays parce que d'abord, il n'est pas très courant que l'on puisse comme ça de manière répétée s'ingérer dans les affaires intérieur d'un État, et puis surtout, c'est un fâcheux précédent, car si vous regardez les élections sur le continent africain de ces dernières années, jamais la communauté internationale ne s'était à ce point ingérée de manière répétée, donnant quasiment des ordres en fait, et affichant très clairement leurs préférences par rapport aux différents candidats.
La CENCO conteste aussi l'état de la CENI, sans toutefois dire qui est le candidat vainqueur, selon elle.
La CENCO a maintenant intérêt à faire profil bas, c'est-à-dire qu'en tant qu'observateur, elle ne peut plus se prononcer publiquement sur ce qu'elle a déjà rendu public comme étant ses observations. Je pense qu'il y a eu suffisamment de confusion qu'elle a elle-même entretenue que pour maintenant laisser sereinement la Cour constitutionnelle faire son travail.
Disons que c'est maintenant la Cour constitutionnelle qui a des choses à main.
Tout à fait, elle et elle seule, effectivement. Et son arrêt est opposable à tous. Donc une fois que la Cour aura donné sa décision, quelle que soit sa décision, elle sera opposable à tous.
Voilà, c'était l'analyste politique Henri-Désiré Zouzi-Jouin à Bruxelles.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. On se retrouve dans l'émission interactive à votre avis ce vendredi à 18h05 universel sur VOA Afrique. En RDC, l'opposant Martha Fayoulou va saisir la Cour constitutionnelle. Il revendique la victoire à la présidentielle du 30 décembre, remportée par Félix Tshisekedi selon la CENI. Comment réagissez-vous à cette annonce? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
Cap sur le Tchad maintenant. Des pêcheurs du fleuve Chari et Logone, à la périphérie de N'Djamena, se disent victimes de raquettes d'hommes en tenue de sécurité. André Kodmanjingar, notre correspondant, les a rencontrés.
Il est 9h, heure locale, sur le bord du fleuve Chari, à la périphérie de N'Djamena, la capitale. C'est l'heure à laquelle les pêcheurs reviennent dans leur quartier général où les attendent leur épouse pour amener le poisson au marché. Mais après une longue nuit d'activité, les pêcheurs reviennent réduits.
Nos grands-parents, eux, ils ne cultivent pas, mais c'est la pêche qui les nourrit. Tout leur bien, ils échangent avec le poisson. C'est pourquoi nous, les descendants, nous empruntons ça. Jusqu'aujourd'hui, nous tentons de pêcher et nourrir nos familles avec. Mais maintenant, c'est un peu difficile. Il n'y a pas assez de poisson.
Ah bah, le padaniel. La soixantaine revenue confirme à VOA Afrique qu'il pratique cette activité depuis 1984. Il dénonce par ailleurs le racket dont ils sont victimes quotidiennement de la part des agents de sécurité.
Quelqu'un qui apporte le kaki, il fait le contrôle comme il veut. Il ramasse les filets, les pivots. Quand tu cherches à parler, il te bastonne. Ils ont participé les cartes, mais ces cartes, ils ont mis 3000 francs. Ils ont écrit derrière le cadre de coordination nationale. Et quelle coordination, je ne comprends même pas. Ils ramassent l'argent avec.
Selon nos investigations, cette carte dont il est question a été confectionnée par un agent de la direction de la pêche et du développement de l'aquaculture du ministère en charge de l'environnement. Cet agent aurait mis sur pied une association dont l'autorisation de fonctionner lui a été délivrée le 3 mai 2018. Mais les responsables de la direction de la pêche du ministère de tutelle ont déclaré qu'ils ne sont pas informés de l'existence d'une telle association. L'épouse d'un pêcheur qui requiert l'anonymat fustige le comportement des forces de l'ordre qui ne permet pas aux pêcheurs d'exercer cette activité pour leur survie.
Les forces de l'ordre empêchent nos maris de pêcher. Elles arrachent leur matériel de pêche pour aller brûler. Ce qu'elles font aux pêcheurs nous révolte. Sur le fleuve, les hippopotames ne leur laissent pas le temps et de l'autre côté, les militaires sont là pour les bastonner et les infligent des amendes allant de 5 000 à 10 000 francs CFA. Comment peut-on s'en sortir?
Le président de la fêtière des organisations pour la promotion de la pêche au Tchad, Haroun Kager, lui parle d'un vol organisé.
C'est une organisation fictive qui a créer un système d'arnaque, c'est tout. Et plus grave, quand on amène des gens en armes pour subtiliser l'argent chez des pauvres pêcheurs, c'est dangereux.
Le responsable de la direction de la pêche du ministère de l'Environnement trouve inadmissible que chaque agent du service de sécurité profite de la tenue qu'il porte pour appauvrir davantage les pêcheurs déjà frappés par la crise sociale et entendre se prononcer sur cette affaire plus tard. André Kotmadjingar Gamena, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, Lazizé Ntiare a intégré il y a 12 ans le département de linguistique de UT University à New York, où il a eu son doctorat. Ce Camerounais de confession musulmane a épousé la société américaine sans pour autant perdre les valeurs qui lui sont chères et qui Abadou l'a suivi à New York.
Comme chaque vendredi, l'Aziz tente de suivre l'un des piliers de l'islam en allant à la mosquée près de chez lui dans le Bronx ou dans celle-ci, au centre islamique de New York.
La manière dont nous prions, tout le monde enlève les chaussures et on se met au même niveau. Cela donne l'impression que la grandeur en islam n'est pas au niveau de l'origine, de la richesse ou bien du statut social, c'est beaucoup plus au niveau de la foi.
Sa foi l'abandonne très peu et il expérimente partout. Au travail, en famille et même dans le métro, et cela lui évite le stress.
Vous parlez de stress, vous savez, les gens vivent ici avec beaucoup de choses à la fois. Ils doivent s'occuper des enfants, de leur travail. Le stress, c'est normal. Ça dépend de comment chacun gère son stress. Moi, particulièrement, je n'ai pas peur du stress.
La prière, c'est une forme de méditation. Ça vous recentre vous-même, en sorte que vous n'êtes pas envahi par les énergies qu'il y a autour de vous. Parce que la concentration permet de retirer dans votre cerveau tous les motifs de pression. Vous comprenez? Donc ça fait en sorte que la foi musulmane, pour moi, m'aide à contrôler beaucoup de stress.
La petite anecdote hein, avec mes étudiants, avec mes camarades, c'est que durant la période de Ramadan, je respectais 30 jours de Ramadan sans que personne ne sache que j'étais en train de jeûner. Alors, ils m'invitaient au restaurant à manger, je pouvais les accompagner et m'excuser que je ne suis pas en train de manger, tout simplement parce que je ne veux pas extérioriser ma foi et empêcher les gens à vivre leur vie, n'est-ce pas, de manière naturelle. Donc, l'islam, c'est plutôt dans le comportement, c'est dans l'attitude, n'est-ce pas, qu'on adopte personnellement. Parce que la religion, pour moi, c'est une question privée. C'est une affaire privée. Ça devient un problème lorsque vous voulez dicter le privé dans, n'est-ce pas, Vous savez, les gens parlent beaucoup du rêve américain. Bon, quand moi, j'avais à choisir entre faire mes études à l'université de Paris, à Sorbonne, et l'université de New York, le choix était très facile. Parce que je me dis, aux États-Unis, à New York, je vais rencontrer des Noirs comme moi. Je ne serai pas stigmatisé. Et j'ai plus de liberté, n'est-ce pas, à exprimer ce que j'avais à dire.
Détenteur d'une green card depuis tant d'années, l'Aziz est éligible pour la naturalisation, mais il préfère garder sa nationalité camerounaise. Des États-Unis, il s'engage aux côtés d'autres activistes pour soutenir les anglophones du Cameroun, qui, selon lui, sont marginalisés. Il vit ainsi avec un pied aux États-Unis et un autre au Cameroun, comme le lui dicte son cœur.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console Nelson Lobbs, à la présentation Abdourahman Dia et Morken Guiriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
VOA Afrique, les infos.